Bonsoir à tous. Bonsoir Jeanne-Marie, bonsoir Gérard.
Bonsoir André. Bonsoir.
C'est Attaque.
Eh oui, c'est Attaque 18, le groupe Attaque de la région de Bourges, qui vous parle sur Radio Résonance 96.9, tous les quatrièmes vendredis du mois. Sauf cette fois-ci, où nous avons dû retarder d'une semaine l'émission de juin.
Et que dit-on chez nous ?
Qu'un autre monde est possible. Un monde juste, solidaire, durable et démocratique. Parfaitement.
Nous commencerons par une séquence d'actualité.
Ensuite, Louis-Claude nous rassurera sur la situation des riches. Enfin, pour eux, tout baigne.
Puis nous présenterons le livre que vient de publier Attaque France intitulé « Impôts, idées fausses et vraies injustices ».
Puis nous parlerons de l'hydrogène vert qui depuis quelques mois suscite l'engouement des multinationales qui y voient un remplaçant du pétrole permettant de continuer à faire tourner le système comme avant.
Alors, André, Louis-Claude, Jeanne-Marie, qu'avez-vous retenu de l'actualité de ce mois ?
Eh bien, samedi dernier à Bourges a eu lieu un rassemblement en soutien de l'agriculture bio mise à mal par la nouvelle politique agricole commune, ou plutôt son interprétation par le gouvernement, qui va réduire les aides que touche chaque agriculteur pour la transformation ou le maintien en bio. Jean-François Vincent nous en a dit quelques mots au cours de ce rassemblement.
Jean-François Vincent, lors de notre dernier entretien là, au mois de mars, tu as été assez inquiet au niveau de la politique agricole commune pour le bio. Et je crois que tes craintes se sont confirmées, n'est-ce pas ?
Oui, surtout sur son application française, en fait, parce que là, il y a eu, au niveau européen, bon, on va peut-être pas en parler là tout de suite, ça s'est plus ou moins décanté hier et aujourd'hui, voilà, mais c'est encore pas signé, donc on va pas en parler. Par contre, depuis le mois de mars, là, avril, ce qui est sorti, c'est la proposition française, donc, du ministre de l'Agriculture, de mise en œuvre de la PAC en France, puisque, je l'avais dit, il y a une certaine renationalisation de la PAC dans cette prochaine PAC. Et donc, en France, ça s'appelle, comme dans tous les pays, ça s'appelle le plan stratégique national. Et ce plan stratégique national, donc, qui détermine en fait la politique de soutien à l'agriculture pour les 7 ans jusqu'en 2027, eh bien carrément, on va dire que globalement, c'est la continuité de ce qu'il y avait avant, sauf sur un point, c'est-à-dire la bio. Et la bio est moins aidée, moins prônée, moins privilégiée que dans l'ancienne PAC. Et alors, ouais, pourquoi est-ce qu'elle est moins privilégiée ? Donc, ce surplace-là, en fait, ça veut dire que, globalement, il y avait un petit peu moins d'argent pour la France, pour les agriculteurs. Et puis, mais de Normandie, sous la pression, tu as vu comme moi des manifestations, entre autres à Bourges, il n'y a pas longtemps. Et en fait, derrière, tout de suite, il a promis aux agriculteurs qu'ils ne changeraient rien, qu'ils ne perdraient pas plus de 10 euros par hectare et par an. Sur leurs aides, et ça il l'a fait en fait en supprimant l'aide à la bio qu'il y avait déjà depuis extrêmement longtemps, puisque ça avait été mis en place par Michel Barnier en 2010, tu vois, donc Michel Barnier pourtant qui était quelqu'un du RPR, voilà, mais qui avait compris un peu les enjeux de l'agriculture et qui avait mis en place une aide à la bio sur le premier pilier. Donc, donc c'est pour ça, je ne sais pas si on fait référence à la manif qu'on vient d'organiser, là, qui est en train de se dérouler. Tout à l'heure, on va aller à la préfecture. Et en fait, on a manifesté le 2 juin à Paris. Certains l'ont peut-être vu, hein, ça a été précédé d'une campagne sur les réseaux sociaux avec le hashtag la bio à poil. Donc, on a eu plein de, nous, que ce soit en département du Cher, enfin, voilà, on a eu plein d'agriculteurs, d'agricultrices bio qui se sont photographiés à poil avec leurs animaux, avec leurs légumes, avec leur tracteur, voilà. Et ça a été un gros succès, puisqu'on a même Lucie Lucas, qui est une actrice qui s'appelle Clem, qui nous a soutenus. Voilà, c'est elle qui a fait le plus gros score de like et de partage. Voilà. Mais donc, ça a eu beaucoup d'effet, puisque le ministre, et il faut le dire aussi, la FNSEA, se sont répandus sur les réseaux sociaux pour dire qu'on était des menteurs, sauf qu'ils ne l'ont jamais montré. Leur argument, le seul argument qu'ils avaient, c'était que l'aide à la conversion passait de 250 à 340 millions d'euros, ce qui est vrai. Sauf que les 340 millions d'euros, ils ne permettront même pas d'atteindre les objectifs européens pour 2030, qui sont de 25% de bio. Et De Normandie dit lui-même que ce sera, voilà, son objectif, c'est 18% avec ces 340 millions d'euros. Sauf que il n'y a pas un agriculteur, enfin si, il y en aura peut-être un ou deux, mais enfin, la majorité des agriculteurs conventionnels, ils passeront pas en bio s'ils sont pas sûrs de gagner au moins autant d'argent une fois qu'ils auront fini leur aide conversion. Et le gros problème, celui dont on parle, c'est pas l'arrêt de l'aide conversion, c'est l'arrêt de l'aide, ce qu'on appelle l'aide au maintien. Et l'aide au maintien, elle est mal nommée en fait, c'est une aide pour rémunérer les bénéfices environnementaux de la bio, c'est-à-dire qu'en faisant de la bio, ben, on évite des coûts de dépollution de l'eau, on évite des cancers, on évite une chute de la biodiversité, etc. Quoi, voilà.
Et même des émissions. Ce qu'on appelle les externalités positives. Quoi.
Voilà, externalités positives ou négatives. Actuellement, l'agriculture fait beaucoup d'externalités négatives. On peut dire que nous, on les internalise, c'est-à-dire que c'est dans nos coûts. Quand tu achètes un chou bio, eh ben, tu achètes en même temps la dépollution. Voilà, parce que dans un chou normal, eh ben, c'est toi en tant que contribuable qui va payer la dépollution de l'eau, l'usine de dénitrification, etc. Quoi.
Oui, et en plus, le bio, c'est bon. Ça a meilleur goût.
Ça, c'est vrai. Bon.
Et ben, merci Jean-François.
Merci à toi.
Il y a quelques jours, des renseignements ont été diffusés sur le prochain rapport du GIEC concernant le réchauffement climatique, qui doit être publié en février prochain. Ces premiers éléments sont particulièrement inquiétants. Le réchauffement s'accélère encore plus vite qu'on ne le pensait et la limite à ne pas dépasser serait ramenée de 2 degrés à 1,5. Limite de degrés qui pourrait être atteinte dans quelques années vu qu'on en est déjà à plus d'un degré par rapport au début de l'ère industrielle. C'est-à-dire le milieu du 19e siècle. Le collectif Unis pour le climat du Cher, qui regroupe une quinzaine d'associations et qui était en sommeil, a été réactivé à l'occasion de la loi climat. Loi qui est en cours d'examen au Sénat. Le collectif a organisé une manifestation le 26 mars et une autre le 8 mai à Bourges. Lors de la campagne électorale, il a envoyé un questionnaire à tous les candidats au régional. 3 ont répondu. L'alliance EELV, les Verts, quoi, et la France Insoumise, l'alliance PS-PC et le Rassemblement National, qui ont répondu, oui. Et Hello a donné une brève réponse globale et les Républicains ont envoyé un flyer. Ces réponses sont disponibles sur le site d'Attaque. Elles montrent bien les différences d'approche entre ces candidats. Les réponses du Rassemblement national sont édifiantes.
Nous avons déjà abordé dans notre dernière émission le problème de la levée des brevets sur les vaccins réclamés par plus d'une centaine d'États. Eh bien, le Parlement européen avait à se prononcer là-dessus. Ont voté contre la levée des brevets tous les députés français de droite, mais aussi les députés du Rassemblement national et aussi, hélas, ceux du PS. Vacciner le plus rapidement possible le maximum de personnes sur l'ensemble de la planète est crucial pour éviter l'émergence de nouveaux variants. Donc fabriquer les vaccins massivement partout où c'est possible. Cela signifie non seulement lever les brevets, mais transférer les procédés de fabrication. Les labos, les gros labos, hein, les big pharma, évidemment, ne veulent pas. Bah, d'abord, ça les obligera à diminuer leur prix. Alors, on ne sait pas exactement le prix de revient d'une dose, mais on sait qu'il est très, très, très inférieur au prix de vente. Mais surtout, ces transferts de technologies rendraient des labos des pays du Sud plus concurrentiels, et cette perspective n'amuse pas du tout Pfizer, Merck, AstraZeneca, Moderna et consorts, qui, d'ailleurs, sont en train d'engranger des fortunes. Finalement, la question est de savoir si on privilégie la santé des 7 milliards d'humains ou la santé de quelques gros labos et de leurs actionnaires. Il ne faut pas lâcher là-dessus, car c'est l'occasion d'obtenir que les vaccins, et plus tard les médicaments en général, soient des biens communs de l'humanité. On nous dira que si les labos ne font pas de profit, ils ne pourront plus investir dans la recherche. Mais cette recherche est déjà très majoritairement, directement ou indirectement, financée par l'argent public.
la récente réunion du G7, c'est-à-dire des sept plus grandes puissances économiques du monde, a fait une proposition volontiers présentée comme révolutionnaire. Instaurer pour l'ensemble de la planète un taux minimum de 12,5% sur les bénéfices des très grandes entreprises. Mais pourtant, si on y regarde de près, c'est beaucoup moins alléchant. Ce taux n'est que très peu au-dessus de celui de paradis fiscaux comme l'Irlande. Il n'empêchera pas l'évasion fiscale et la course au moins 10 ans fiscal des États voulant attirer les investisseurs. Cela pourrait donc même en inciter certains à s'aligner à leur tour sur ce taux, ce qui ne serait pas un progrès mais une régression.
Dans le numéro du mercredi 30 mai du journal Le Monde, deux juristes de l'association La Quadrature du Net, pardon, qui défend les droits des internautes et les libertés publiques, alertent l'opinion sur un projet de loi en discussion actuellement au Sénat. Ce projet de loi sur le renseignement pérennise la surveillance de masse par la mise en place d'algorithmes qui permettent une surveillance automatique des connexions téléphoniques et Internet de l'ensemble de la population. Sous couvert de lutte contre le terrorisme, on va beaucoup plus loin. D'après un rapport officiel publié en 2019, je cite « L'anticipation, l'analyse et le suivi des mouvements sociaux et des crises de société par les services de renseignement constituent une priorité ». Bon, connaître l'état de l'opinion pour un gouvernement, c'est légitime. Mais d'autres moyens existent, la presse, les déclarations publiques, les publications. Et il ajoute « Anticiper les dérives violentes s'applique également » aux affirmations de vie en société qui peuvent exacerber les tensions au sein du corps social. » Fin de citation. Et là, on est loin de la lutte contre le terrorisme. Il s'agit de maintenir un état d'urgence permanent qui permet de suspendre le droit fondamental au secret de la correspondance de l'ensemble de la population. Ceci est contraire aux décisions de la Cour de justice de la Communauté européenne. On s'achemine peu à peu, l'air de rien, vers un système à la chinoise. Et ça, c'est très dangereux. Ben voilà, encore un sujet à suivre et des mobilisations à prévoir.
Bon, et maintenant, Louis-Claude et toi, André, vous allez nous parler des riches, non ?
André, dis-moi, aimerais-tu avoir un yacht privé ?
Un bateau ? Moi, oh, tu sais, j'ai déjà le mal de mer dans ma baignoire, alors... Mais au fait, pourquoi cette question ?
Ben, j'ai lu récemment un article qui décrivait des bateaux personnels dont la longueur approche les 200 mètres et devrait même bientôt les dépasser.
Oh, tiens, quel intérêt de faire ça ?
Ben, je trouve, moi, que ça ressemble au nombrilisme des maîtres de forge de la vallée du Gier, près de Saint-Étienne. À la fin du 19e siècle, ils construisaient des cheminées toujours plus hautes dans leurs usines. Plus la cheminée était haute, plus le maître de forge affirmait sa richesse. Rive de Gier en a une de 104 mètres, quand celle de Saint-Chamond n'en a que 102. Inutile de préciser que ni l'une ni l'autre ne fume plus depuis des décennies.
Ouais, mais les yachts continuent à fumer, eux, hein ?
Ah oui, ça, puisque leur consommation est estimée de l'ordre de 2000 litres de carburant à l'heure. C'est du moins ce qui est annoncé comme écologique pour le A, c'est son petit nom, un hybride, voile et moteur thermique de seulement 118 mètres.
Et à qui appartient cette merveille ?
Oh, à quelques super riches, hein. Ça s'achète à coups de centaines de millions d'euros pour aller naviguer aux Antilles, au Brésil ou encore du côté de Malte.
Oui, et de quelques autres îles fiscalement paradisiaques. Oui. Bon, ce qui fait que pour l'État, les finances de l'État, ça ne doit pas rapporter grand-chose.
Ben non, ça rapporte à peu près rien, dans la mesure où les propriétaires sont des membres de l'international des hyper-milliardaires et qui forment une classe séparatiste, et qui s'arrange pour ne pas payer d'impôts ou éventuellement les minimiser avec la complicité des gouvernements libéraux. Ainsi, notre président, Emmanuel Macron, leur a rendu service en remplaçant l'impôt sur la fortune par l'impôt sur la fortune immobilière, qui exclut évidemment ceux qui bougent de son calcul, comme les voitures de luxe ou les yachts.
Alors, ce que tu viens de dire rejoint une question que je me posais.
Laquelle ?
Eh bien, comme tu l'as entendu dire, la pandémie et ses confinements auraient permis de faire des économies. Enfin, pas tout le monde, hein, et pas toujours de même niveau.
Oui, ça vaut la peine d'être précisé, ça.
Oui, M. Pisani-Ferry, éminent économiste patenté, régulièrement invité dans les médias, fait un gros tas des Français qui disposeraient, à eux tous, de 150 milliards d'euros inutilisés, Hein, économiser pendant le confinement, ils n'ont pas pu le dépenser. Enfin, pas tous les Français, hein, parce qu'on sait que les plus pauvres le sont encore plus, et que ceux qui en étaient déjà tout près le sont devenus.
Oui, ben ça c'est une notoriété publique. Hein. On a entendu parler des files d'attente du Secours Populaire, au Resto du Cœur, à la Banque Alimentaire.
Et on est loin des richissimes dont tu parlais précédemment, et qui disposent chacun individuellement de centaines, de millions, voire de milliards d'euros. Eh bien, ce monsieur n'hésite pas à faire une affaire quasiment morale de ce prétendu égoïsme qui consisterait à dormir sur son or.
Oui, ça aussi, ça s'est beaucoup raconté. En somme, il serait grand temps que ces néo-fortunés fassent chauffer leur carte bleue pour relancer l'économie, rembourser la dette, lutter contre le chômage et autres plaisanteries du même ordre.
Bah, c'est juste oublier que l'incertitude des lendemains ou la crainte du chômage peuvent inciter les classes populaires à la prudence. Quant à notre bande de séparatistes milliardaires, en immatriculant ses bateaux au Panama ou à Chypre, elle ne participe guère au redressement économique du pays. Attac et Oxfam ont publié un rapport dont on a sorti quelques chiffres. En un an de pandémie, les 20 personnes les plus riches de la planète ont vu leur fortune s'accroître de 62% en un an. Pas mal, non ?
Ah oui, pas mal, en effet. Alors, tiens, imagine un moment que le salaire d'un smicard augmente dans les mêmes proportions, qu'il passe de 1200 euros net à 2000, ou que celui d'une infirmière ou d'un prof passe de 2000 euros à 3200. Ça devrait leur plaire quand même. Hein. Et les milliardaires en question ont récupéré ça en ne faisant rien, par l'effet de la seule spéculation boursière.
Oh, un peu d'amertume malgré tout. Ah oui. Si les plus riches de la planète récupèrent un peu plus de 62%, nos 38 richissimes Français ne gagnent que 40% à eux tous en moyenne.
Bah ça alors.
Ah oui, soit tout de même, quand même, hein, 170 milliards d'euros, de quoi participer à la résolution des problèmes évoqués précédemment. Enfin, leur fortune cumulée, pardon, passe tout de même de 425 milliards d'euros à 600 milliards. Ah, mais enfin, eh oui, ils sont mauvais comparés à leurs homologues planétaires. Enfin, de toute façon, ils sont pas à plaindre quand même.
Hein. Ah, vraiment, non. Mais tiens, une autre comparaison de chiffres. Les femmes de ménage d'un sous-traitant de l'hôtel Ibis Batignolles se sont battues pendant près de 2 ans et ont fait grève pendant 8 mois. Et elles sont très justement fières d'avoir obtenu gain de cause, à savoir un alignement de leurs conditions de travail sur celles des employés de l'hôtel. Parmi les avantages acquis, des augmentations de salaire de 250 à 500 euros et, entre autres, la prise en compte des heures supplémentaires qui n'étaient pas payées jusque-là.
Ah ben, c'est un beau succès qu'il faut saluer. Mais je suis quand même pas certain que cela puisse leur permettre de s'offrir une Rolex à 50 ans, un yacht de 100 mètres et peut-être même pour certains un séjour au bord de la mer. Hein. Mais c'est quand même une victoire syndicale bâtie sur l'unité et la ténacité.
Oui, et puis ça relève notablement la cote des femmes.
Eh tiens, comment ça ?
Ben regarde, Bernard Arnault, troisième homme le plus riche de la planète, un Français bien sûr, hein, récupère plus de 60 milliards d'euros dans l'année. Françoise Meyer-Bettencourt, femme la plus riche du monde,
Cocorico.
Ah ben oui, aussi, oui, n'engrange, elle, qu'une vingtaine de milliards d'euros, 3 fois moins. Dans le club des riches, les hommes sont effectivement bien meilleurs que les femmes. Mais allez, redevenons féministes quand on voit ce que les femmes de ménage ont été capables d'obtenir collectivement. Quand même, ça vaut la peine.
Allez, terminons sur une note optimiste. Les ministres des Finances du G7 vont tous adhérer à Attac.
Ouais.
Si, si. Ils vont décider le G20, puis le G++, puis l'ONU, peut-être même la planète Mars, de taxer les entreprises à un taux d'impôt uniformisé de 15%. Enfin, Biden était parti de 21 déjà. Alors ça a déjà diminué, ça va peut-être continuer.
Mais
enfin,
c'est la fin des paradis fiscaux.
De l'optimisation fiscale.
Si, ils l'ont dit à la télé.
Donc c'est vrai.
Si j'avais du pognon, je serais une belle ordure. Je serais le roi des salauds, forcément, car je ne supporterai pas d'en donner à qui que ce soit. Si j'avais de l'oseille, je vivrais au soleil, dans une villa surplombant la mer. Forcément, forcément, de me prendre pour un pacha, je voudrais la plus belle des casbahs. Si j'étais richissime, j'aurais tout un harem rempli de jolies filles de toutes les couleurs. Forcément, forcément, l'amour serait à mes genoux, plus d'ennuis de ce côté-là. Si j'étais milliardaire, je changerais de trottoir lorsque je reverrais mes anciens amis. Forcément, forcément, tous ces vautours, ces parias, je les fuirais comme le choléra. Si j'étais plein aux as, je mènerais la vie belle. Douce comme un pétale de rose, forcément. Mon désir est immense, fortune, fortune, je t'épouserai. Veux-tu bien de moi, je serai digne de toi. Le roi des salauds, forcément, forcément, la chance aurait vite fait de moi le plus joyeux des scélérats. Laï, 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 le plus heureux des renégats. Laï, 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 laï.
Vous écoutez l'émission d'Attaque 18 sur Radio Résonance 96.9.
Eh bien, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à des fake news.
Ah bon, t'es branché sur QAnon ?
Eh non, pas du tout. Ce sont des fake news bien de chez nous, qui n'ont pas été lancées sur les réseaux sociaux par de sombres officines complotistes. Elles sont énoncées par d'éminents commentateurs et diffusées à longueur de colonne et d'antenne par les grands médias.
Et alors, tout le monde les croit ?
Non, pas tout le monde. Les gens d'Attaque viennent de sortir un petit bouquin pour tordre le cou à certaines d'entre elles, parmi les plus répandues. Son titre, Impôts, idées fausses et vraies injustices. Il est publié au lien qui libère. Il a été écrit par une équipe de 9 auteurs, dont un dessinateur qui illustre à sa façon chaque chapitre. Et ces fake news, en français c'est bobard, ils en ont compté pas moins de 19. Et on va en voir quelques-uns, pas tous, hein, parce que ça serait trop long.
Bon alors, il y a un ras-le-bol fiscal car nous payons trop d'impôts.
Eh bien, cette vision est contredite par des sondages successifs sur les relations des Français à l'impôt qui montrent que la première raison de ce ras-le-bol fiscal est le caractère injuste du système fiscal. En clair, les Français ne refusent pas l'impôt, ils veulent qu'il soit juste.
La France est la championne des prélèvements obligatoires.
Oui, en fait, ça dépend comment on calcule et ça varie d'un pays à l'autre, alors ce qu'il faut, c'est les comparaisons. Il est vrai que la France est dans le peloton de tête avec le Danemark, la Suède et la Belgique. Et c'est le cas depuis longtemps déjà, depuis les années 60. Les prélèvements obligatoires comportent essentiellement deux éléments. D'une part, les impôts. Impôts directs, comme l'impôt sur le revenu, impôts indirects, comme la TVA. Il comporte d'autre part les cotisations sociales, qui couvrent de manière mutualisée, socialisée, solidaire, les risques maladie, chômage, ainsi que les retraites. Là où les cotisations sont plus faibles, les gens doivent cotiser individuellement auprès d'assurances privées. S'ils ne peuvent pas le faire, ils ne sont pas couverts. C'est plus coûteux, moins efficace et plus injuste. C'est pourtant ce système de protection sociale qu'on attaque depuis des années, alors que beaucoup d'Américains, eux, aimeraient bien l'avoir.
Notre système de santé nous coûte trop cher.
Juste une comparaison avec les États-Unis encore, où les soins sont assurés par le privé ou des fondations charitables, et où le financement est lui aussi largement privé, l'intervention de l'État étant limitée. Eh bien, si les États-Unis consacrent à la santé 18% de leur produit intérieur brut, pardon, en France, avant le Covid, c'était moins de 12%. Notre système est plus efficace, plus juste et moins cher.
Alléger l'imposition des riches favorise le ruissellement, l'investissement et l'emploi.
C'est toujours l'argument avancé pour justifier les baisses d'impôts pour les riches, comme la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, ou la forte baisse des prélèvements sur les revenus du capital. Pourtant, le comité d'évaluation nommé par le gouvernement n'hésite pas à écrire que ces mesures ont entraîné une hausse du versement des dividendes, mais, je cite, « aucun effet significatif sur les investissements ». Fin de citation.
Les entreprises payent trop d'impôts.
C'est ce qu'a fait bien en 2019 le président du MEDEF. Trop d'impôts, ça se discute, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais une chose est sûre, les petites entreprises en payent bien davantage que les grandes, essentiellement parce que ces dernières pratiquent massivement l'évasion fiscale. Et on retrouve les paradis fiscaux dont on a parlé tout à l'heure.
Les pauvres ne payent pas d'impôts.
Ils ne paient pas l'impôt le plus visible, l'impôt sur le revenu. Mais ils en paient d'autres. Pour beaucoup d'entre eux, ils paient la CSG. Et surtout, ils paient les impôts indirects. Et en premier lieu, la TVA, qui pèse en proportion bien plus sur les pauvres que sur les riches.
Les minima sociaux favorisent le chômage et l'assistanat.
Monsieur Perlevade, ancien patron de Suez et du Crédit Lyonnais, a déclaré en 2018 « La France a une incroyable paresse ». Fin de citation.
Oui, alors cela sous-entend qu'en réduisant les prestations sociales, on inciterait tous ces feignants à traverser la rue pour trouver du boulot.
Et justement, regardons-les de plus près, ces prestations sociales. Il y a d'abord les prestations familiales, presque toutes versées, sans condition de ressources, donc même les riches les touchent. Ensuite, les dépenses de la branche maladie, 200 milliards d'euros. Elles aussi, sans condition de ressources. Or, CMU, la Sécu, rembourse tous les malades de la même façon, quelles que soient leurs ressources. Les dépenses de retraite sont très majoritairement versées sans condition de ressources. Le minimum vieillesse n'est attribué que si on dispose de moins de 10 418 euros annuels, soit 868 euros par mois. L'indemnisation du chômage, qui coûtait 42 millions d'euros par an avant la crise du Covid, et qui est calculée en fonction du salaire, reproduit en fait les inégalités salariales.
Il est donc totalement fou de prétendre et de sous-entendre aussi que les prestations sociales ne bénéficient qu'aux plus pauvres.
Les minima sociaux coûtent 27 milliards d'euros et ne permettent pas de vivre dignement. Le RSA, il n'est que de 565 euros pour une personne seule. Et en plus, certains ne réclament même pas les prestations auxquelles ils ont le droit. Une étude de l'INSEE en 2014 écrit noir sur blanc « L'effet des incitatives du RMI sur l'emploi des jeunes célibataires sans enfants autour de 25 ans pour la période 2004-2009 semble très faible. » Fin de citation.
Si on traduit le langage technocratique en français courant, ça veut dire que si à 25 ans on est au RSA, ce n'est pas parce qu'on veut se la couler douce aux frais de l'État, mais parce qu'on n'a pas trouvé de travail.
Comme dit ATD Carmonde, qui en connaît un bout sur la question, ce n'est pas le montant des minima sociaux qui décourage les gens de travailler, c'est le manque d'emplois décents, accessibles à tous.
Oui, décents et accessibles. Tiens, si on vous offre 20 heures hebdomadaires, payées au SMIC, soit 693 euros net à 30 km de chez vous, vous allez refuser. Et vous aurez raison.
Parce que quand vous aurez payé l'essence et éventuellement la garde d'enfants, il vous restera plus grand-chose. Ce que nous vous présentons n'est qu'un aperçu rapide du livre. En fait, chacune de ces 19 idées fausses est démolie méthodiquement à partir de documents incontestables comme des rapports officiels souvent d'origine gouvernementale ou aussi des études universitaires.
Oui, il est pourtant facile à lire et passionnant. Hein. Il vous donnera, si vous le lisez, des arguments en béton pour les déjeuners en famille ou les débats qui vont surgir pendant la prochaine campagne présidentielle, par exemple.
Et voilà, bah déjà en 1930, hein, le chanteur Monteus, dans une de ses chansons, réclamait la justice fiscale. Il s'en prenait d'ailleurs aux rentiers hein, à l'époque.
Les très grandes richesses, ceux qui possèdent des châteaux, des palais, ceux dont la vie n'est faite que d'allégresse, sans nul souci, ne travaillant jamais. Que l'on impose les archimillionnaires, mais que désormais on laisse à l'ouvrier intégralement l'argent de son salaire. Pour qu'il n'y ait plus de misère à son foyer. Au lieu d'imposer le travailleur qui gagne le pain de ses enfants, imposez plutôt les notaires qui gaspillent tant d'argent. Oh oui, la loi qu'il fallait faire, je vous le dis, messieurs du Parlement, c'est pas l'impôt sur les salaires, mais c'est l'impôt sur les feignants. Vous qui voulez qu'on repeuple la France, n'écrasez pas par de nouveaux impôts le travailleur, car alors sa conscience se révolterait contre tous ses bourreaux. Ce que le père peut gagner à l'usine, ça c'est sacré, messieurs, n'y touchez pas. Oui, votre impôt, c'est la peau de la famine. Et cette loi, Marianne, fiche la rempart. Au lieu d'imposer le travailleur qui enrichit le gouvernement, imposez plutôt les noceurs et qu'il paient pour les pauvres gens. Oh oui, la loi qu'il fallait faire, je vous le dis, messieurs du Parlement, c'est pas la peau sur les salaires, mais c'est la peau sur les feignants.
Vous écoutez l'association Attaque 18 sur Radio Résonance 96.9.
Eh bien, Jeanne-Marie, tu te rappelles peut-être qu'il y a plus d'un an, nous avions présenté un livre intitulé « L'hydrogène, nouveau pétrole ».
Oui. Il a été écrit par un chef d'entreprise qui a installé des centrales photovoltaïques un peu partout dans le monde. Hein. Mais quel rapport avec l'hydrogène ?
Ben, commençons par le commencement. Il faut abandonner le plus vite possible les énergies fossiles, dont le pétrole, hein, bien sûr, si on veut garder le réchauffement climatique au-dessus de 2 degrés ou peut-être même 1,5 maintenant. Hein, ce qui est la limite absolue à ne pas dépasser. Au-delà, ça devient imprévisible et à coup sûr catastrophique pour l'humanité. En mettant vraiment les choses au pire du pire, bah oui, ça n'empêchera pas la Terre de tourner et la vie de continuer, mais sans nous.
Alors donc, n'utilisez que des sources d'énergie décarbonées.
Alors, on écarte d'emblée le nucléaire, trop dangereux et qui produit des déchets radioactifs qui le resteront pour certains pendant des dizaines de milliers d'années. On peut quand même pas laisser ce genre de cadeau aux centaines de générations qui viendront après nous.
Donc il ne reste que l'énergie éolienne et l'énergie solaire, avec un peu d'hydraulique et de géothermie, là où c'est possible.
Oui, il y a aussi la biomasse, mais elle sert d'abord à se nourrir. Il faut empêcher la déforestation et d'ailleurs on peut faire bien d'autres choses avec le bois que le brûler.
Ben oui, mais il y a quand même un gros problème avec l'éolien et le solaire. D'accord, le soleil brille et le vent souffle partout, mais pas tout le temps et pas forcément quand on en a besoin. Or, l'électricité ne se stocke pas. Quand on allume la lumière ou qu'on branche un appareil, l'électricité qu'on consomme est produite au même moment par des alternateurs qui tournent quelque part et elle est distribuée par un réseau très complexe de fils et de transformateurs. Alors, imaginons une nuit d'hiver, pas de soleil, pas de vent et il fait froid. Bah, actuellement, on se chauffe au pétrole et au gaz. Et le courant, il est produit par les centrales nucléaires renforcées lors des pointes de consommation par des centrales hydrauliques, au gaz et au charbon. Et ben alors, si on ne les a plus, on fait quoi?
Eh ben c'est là qu'on retrouve l'hydrogène, car lui est stockable en grosse quantité. Les batteries, elles, ne coûtent cher et ne permettent que de stocker de petites quantités d'énergie. Hein. Donc, il est stockable en grosse quantité, pas aussi facilement que le pétrole et le gaz, mais enfin, c'est possible.
Donc, quand on a trop d'électricité, on fabrique de l'hydrogène en électrolysant de l'eau. On le stocke, c'est ça? Ensuite, on utilise cet hydrogène pour fabriquer de l'électricité dans des piles à combustible quand le solaire et l'éolien ne produisent pas assez. On peut aussi mettre des piles à combustible dans des voitures, des camions ou des trains pour les faire rouler à l'hydrogène.
Alors, dans le livre, l'auteur décrit un business plan assez simple. On produit de l'électricité là où elle est la moins chère, c'est-à-dire dans les déserts tropicaux pour le solaire et dans les zones où le vent est assez fort et relativement régulier, comme pour l'Europe par exemple, la mer du Nord. Donc on concentre tout ça à ces endroits-là. On en tire de l'hydrogène, qu'on transporte et qu'on vend dans les pays très demandeurs d'énergie, en Europe, en Amérique du Nord, au Japon.
Je présume que les groupes pétroliers lorgnent de ce côté hein, et songent à leur reconversion.
Ben, bien sûr, hein, Total, Shell, BP et les autres. Ils espèrent bien d'ici quelques années continuer à faire rouler les camions et les voitures, fabriquer des engrais, traiter les minerais, bref, continuer comme avant. Les gouvernements français et allemands ont chacun décidé d'investir plusieurs milliards d'euros en quelques années dans la filière hydrogène.
Bon alors, tout baigne ?
Ben, pas vraiment. D'abord, même si les prix de l'électricité éolienne et surtout photovoltaïque a énormément baissé très vite en quelques années, et ça va sans doute continuer, la chaîne électricité, hydrogène, stockage, retransformation en électricité revient encore tout de même plus cher que les fossiles. Hein. Bon, même si ça doit encore baisser dans l'avenir. Mais surtout, des limites environnementales apparaîtront là aussi très vite.
Il n'en reste pas moins que cette perspective de pouvoir produire une énergie propre, sans déchets, inépuisable et disponible partout, c'est encore une bonne nouvelle quand même.
Oui, bien sûr. Se passer des fossiles et du nucléaire, c'est possible. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais pas comme le voudraient Total, Esso, BP, etc. Parce qu'on peut faire autrement.
Oui, si vous voulez en savoir plus, venez le vendredi 23 juillet à 20h à l'Antidote, le café associatif et militant qui loge au 88 rue de Ron pour une soirée discussion sur le thème du livre. Le livre qui s'intitule « L'hydrogène, nouveau pétrole ?»
En 1975, dans une chanson prophétique, Rice et Barrier annonçait déjà la fin du pétrole.
Sacré nom de Dieu, de bon Dieu, de bon Dieu, c'est toujours pareil à 7h du matin ou 6h du soir. Si j'avais pas besoin de ma bagnole, je ne serais pas parmi ces tocards. Quand il n'y aura plus de pétrole, on se promènera en carriole. Parmi les fleurs, les feuillages, les motards seront en chômage. On respirera profond. Le bon Dieu retrouvera ses moutons. Oh la vache, non mais regarde-moi ce con, le feu est vert, il avance pas, crénom de Dieu, je vais être en retard. Si je déboîte, la file de droite va m'engueuler, ouais ça va, eh connard. Quand il n'y aura plus de benzine, plus d'énergie, plus d'usine, plus de télé, plus de téléphone, on redeviendra des autochtones. Pour se réchauffer quand il gèle, on refera l'amour à la chandelle. Ça y est, je tombe en plein sur un bouchon, je suis vraiment dans la file des cons, merde, y'a un camion en travers. Ah, les emplâtrés, y'a qu'à passer sur le trottoir, vas-y, pépère. Une petite maison au fond des bois, bétail, volaille et feu de bois. Binet, sarclé, fauché les champs. Quand on y pense, c'est fatigant. Au fond, la vie dans la nature, c'est drôlement chouette vu de sa voiture. Tiens, ça y est, la route est dégagée. C'est quand même drôlement bête de rouler en bagnole quand ça avance. Y'a pas de flic dans le coin, un petit 120, vas-y Toto et vive la France!
Voilà, ben André, quelles sont les actions en cours ou qui sont prévues pour les jours et les semaines qui viennent?
Oh ben apparemment, il y a pas de manifestation programmée, enfin en tout cas on n'a pas entendu parler, pour les jours qui viennent. Là. Par contre, le café militant L'Antidote, hein, au 88 rue d'Oron, lui a repris ses activités et il a une programmation assez fournie pour le mois de juillet. D'abord, le vendredi 9 juillet à 20h, ciné-discussion à partir d'un documentaire de Street Press sur les gilets jaunes, une répression d'État. À travers les témoignages de blessés, spécialistes et militants, le documentaire décrypte les dérives du maintien de l'ordre. Le samedi 10 juillet, toujours à 20h, déambulation poétique autour de Gaston Coutet et Jacques Prévert, par les filles de Saint-Pierre. Alors, pourquoi associer le poète qui a chanté les feuilles mortes à celui qui a chanté le gars qui a mal tourné? Bah, pourquoi pas, hein? Le mercredi 21 juillet, à 20h, une ciné-discussion à partir du commentaire « Semer, récolter, résister » de Marion Duhallet et Ousmane Dari. Il montre un processus en marche de reconquête locale de la souveraineté alimentaire. Le vendredi 23 juillet, à 20h, bah, soirée-discussion dont nous avons déjà parlé tout à l'heure à propos du livre « L'hydrogène, nouveau pétrole ». Vendredi 6 août, ciné-discussion à partir du documentaire « Pauvre poulet » qui nous plonge dans le système agraire européen où lobbies influents et grands groupes multiplient les bénéfices. Alors pour rappel, hein, à l'Antidote, l'accueil est à 19h30 et les places sont limitées pour ces soirées-là. Les autres jours, bah, il est ouvert mardi, mercredi, jeudi de 15h à 21h et vendredi, samedi de 15h à 23h.
Voilà, c'est la fin de notre émission. Nous nous retrouverons après les vacances, le vendredi 24 septembre, entre 18h10 et 19h, sur Radio Résonance 96.9.
La présente émission sera rediffusée demain samedi à partir de 14h.
Vous pouvez aussi la réécouter en balado-diffusion sur le site d'Atoc 18 ou celui de Radio Résonance.
Vous pouvez de même réagir en allant sur notre site atoc18.org. Si vous voulez écrire, c'est Attaque 18, Maison des Associations, 28 rue Gambon-Bourges.
Nous avons écouté au cours de cette émission Pascal Parizeau, Ah, si j'avais du poignon, Marty Monteus, L'impôt sur les feignants, et riz et barillé, plus de pétrole.
Au revoir à toutes et à tous et restez à l'écoute de Radio Résonance.
Au revoir. Au revoir.